d'accueillir ce soir Esther Ferrer et Dorin Garcia, donc pour une rencontre sous la forme d'un interview de Dora vers Esther et d'échange aussi, de discussion. Donc en fait c'est Dora Garcia qui souhaitait inviter Esther Ferrer pour l'interroger sur sa trajectoire artistique et notamment en lien avec tout le courant lié à l'antipsychiatrie, donc courant branche de la psychiatrie très importante qui a émergé dans les années 70 et qui a été très très fort dans plusieurs pays en Europe comme en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en Irlande, en Écosse, etc. Et donc cette rencontre fait suite à la fois au livre d'artistes qu'on a fait ensemble, Rosa Scape et Dora Garcia, sur le projet Man Marginal. Donc ce livre d'artistes est un livre qui rassemble un certain nombre d'archives qui ont servi à Dora Garcia pour constituer et documenter le projet Man Marginal, dont une des étapes sera montrée sous forme d'installation au pavillon espagnol de la prochaine Biennale de Venise, puisque Dora est l'invitée du pavillon espagnol. Voilà, donc on souhaitait continuer d'une certaine manière le processus du travail, puisque encore une fois le projet Man Marginal n'est pas fini. Donc en continuant à travers les rencontres, alors ce soir c'est avec Esther Ferrer qui nous parlera entre autres donc de sa trajectoire artistique, du rapport à l'exil aussi, même si ce mot est un peu fort, mais en tout cas on va dire la notion de déplacement. De l'Espagne vers la France, en l'occurrence, donc en lien avec la période franquiste qu'Esther a bien connue. Et voilà, donc je ne vais pas en dire plus, je laisse Esther et Dora dialoguer.
Bon, alors d'abord merci à tout le monde pour venir, mais surtout merci à Esther pour avoir accepté et mon invitation. En fait, ça c'est surtout une rencontre sur Esther Ferrer, qui est quand même née d'une excuse. On a une excuse qui est un livre que Rosa Scape a fait, qui en fait un facsimile de la recherche sur toute cette histoire de la, on appelle ça marginalité comme position artistique. Donc c'est comme ça que le projet en général s'appelle, qui a commencé l'année dernière et que cette année va se présenter au pavillon. Donc, on présente ce livre, je crois, aujourd'hui, ici, non? Oui, on va présenter ce livre. Et, ben, en fait, il y a plein de livres qui sont en relation avec les pavillons cette année. Mais moi, donc, quand on a réfléchi, en fait, j'ai réfléchi à ça avant. Et les travaux qui se présentent sur le pavillon est surtout fait, comme j'ai dit, de monologues, dialogues et conversations. Donc je voulais commencer cette présentation des publications qui ont à voir avec le pavillon, avec une série de conversations avec des artistes que j'admire. On dit comme ça.
Merci. Oui,
admire.
Je savais pas.
Que j'ai une admiration pour eux et pour son travail. Donc, sans que l'ordre signifie rien, là, ça fait à moi, j'ai fait une conversation avec Isidoro Valcárcel Medina, qui est de la même génération que Esther. Et
on a la même âge, exactement.
Exactement,
on est
la même
le
âge.
Même mois.
Ah bon?
Avec quelques jours de différence.
Donc, ça s'est passé à Barcelone. Et maintenant, on a l'occasion d'avoir Esther Ferrer. Donc, c'est justement pour manifester que je suis heureuse que, voilà, et qu'on va parler surtout d'Esther. Mais en fait, l'idée de tout ça, c'est venu parce que j'ai présenté à Castillo Corrales le premier livre de cette série. Et là, Esther était là. Et donc, elle m'a dit, bon, moi, je trouve que beaucoup de points où j'aimerais commencer à parler avec Esther. Mais elle m'a dit qu'en fait, pendant la... les années de l'antipsychiatrie, elle travaillait comme co-responsable pour El País.
Non, non. El País n'existait pas.
El País, bon, alors racontez-nous un peu l'histoire, sa relation avec la...
Voilà, d'abord je vivais déjà à Paris et il y avait un lieu dans les Halles qui s'appelait Les Moubrais, qui c'était un lieu un peu parallèle mais pas tellement, et qui le dirigeait, c'était un psychiatre. Et il avait des ateliers d'enfants et il avait aussi des thérapies, des choses. Et cette psychiatre en question était très en relation avec tout ce qui s'est passé. Elle était très active au niveau des luttes politiques et surtout dans les milieux médicaux. Donc, tout à coup apparaît la question de l'antipsychiatrie. Mmh. Et lui, il était très ami avec Laïne, avec Cooper, avec tous ces gens-là. Et nous, comme on était là, parce qu'on faisait partie de toutes ces activités qu'il y avait autour de Beaubrou, de Bouvray, on a vraiment vécu cette période, mais je ne suis pas ni infirmière, ni médicale, ni rien, mais on a vécu vraiment toute la lutte pour l'ouverture des psychiatriques. Bon, on avait tous dans la tête Foucault et la prison et l'enfermement et la folie, etc., etc., etc. Et on a beaucoup suivi tout ça, et je suis allée dans beaucoup, beaucoup de réunions où cette question de l'antipsychiatrie, des luttes, vraiment. Je me rappelle curieusement, parce que ça fait tellement d'années, des infirmières à l'époque, qui étaient très très actives. Il avait un mouvement très fort d'infirmières psychiatriques qui donnaient des conférences, des discussions, etc. Et j'étais dit, je me rappelle que c'était à côté de Louvre, cette maison ronde, tu vois, qui a la particularité, comme c'est fait pour vendre les marchés de l'ancienne halle, selon dans quel lieu tu te situes, tu entends parfaitement. Mais quand les gens parlent, si tu te situes dans un autre point, tu n'entends strictement rien. Et c'était très curieux parce qu'on jouait un peu avec ça, tu vois.
Et là, il y avait des réunions chaque combien de temps?
Ça, je ne peux pas te dire, je me rappelle, mais il avait beaucoup de réunions, et je me rappelle, il y avait Laïn qui venait, Cooper, que je connaissais personnellement, mais pas parce que mon travail avait en relation pas du tout.
En fait, quand j'ai commencé à parler, parce que je me rappelle d'une des choses qu'on m'a dit souvent quand j'ai parlé avec des gens, c'est qu'en fait, c'est que c'est intéressant de la psychiatrie, c'est qu'il n'y a presque rien à voir avec la médecine, et tout à voir avec les sociétés politiques,
voilà, c'était etc. surtout, bon, c'est-à-dire, c'était pas voir qu'on a la médecine comme thérapeutique physique, mais c'était la thérapeutique de la tête, oui, parce que la plupart des gens étaient psychiatres, et la question était surtout et fondamentalement ouvrir les psychiatries, que les malades puissent vivre dans des appartements, surtout les pionniers, c'était l'Italie, c'est-à-dire, et qu'ils puissent vivre une vie plus ou moins normale, et surtout changer les regards que les gens avaient par rapport à la maladie. Mais ça, c'est Foucault qui a beaucoup fait et qu'on avait tous en tête. Et je veux dire, changer le regard des soi-disant normands et comment on regarde les fous. Et qu'est-ce que c'est la folie? Et la folie comme marginalisation, mais la marginalisation comprend beaucoup de choses qui ne sont pas folles, mais qu'on considère folles. Tu vois, je veux dire, c'était un monde qui, à nous artistes, de toute façon, ça m'intéressait personnellement, pas seulement du point de vue social, parce que moi j'étais toujours très sensible à tout ce qui touche le social, mais après, du point de vue artistique aussi. Qu'est-ce que c'est l'enfermement, qu'est-ce que c'est la limitation, surtout que je venais de l'Espagne franquiste. Je veux dire que l'Espagne franquiste, c'est comme en prison.
C'était comme un énorme.
C'était comme en prison, et on était tous plus ou moins fous. Je veux dire, alors. C'est évident que tu te trouves dans un milieu, ou dans une circonstance, dans une situation où des problèmes comme ça sont à l'ordre du jour. Et en plus, tu as la chance, par hasard, pur hasard, de connaître des gens qui sont là. Et alors, tu ne peux pas faire autre chose que t'intéresser et vivre ça comme une aventure.
Mais après, tu as écrit sur ça à El País.
Oui, j'ai écrit beaucoup à El País quand El País a commencé. Je n'avais pas écrit avant parce que j'avais horreur de la censure franquiste et je n'ai jamais écrit. Mais quand El País a commencé, je leur proposais d'envoyer des chroniques sur les activités, surtout artistiques. Mm-hmm. Mais bien sûr, et tous les sociaux m'intéressaient. Et qu'il y avait des choses de type social pour rapport à la folie, ou pour rapport surtout des femmes, parce que je suis féministe, je veux dire, et comme je suis féministe, j'ai écrit dans la mesure du possible tout ce que je pouvais sur la libération des femmes, sur l'avortement, sur l'accouchement sans douleur, avec douleur, je veux dire, tout ce que touchait les femmes. Et j'avais la chance, surtout dans sa première période, parce que c'était la période de transition, Franco était mort, tout le monde voulait respirer, tu vois, et c'était d'une certaine façon plus libre qu'aujourd'hui. Je me demande si peut-être aujourd'hui, des choses que j'avais écrites, ils seront acceptées. Qu'à l'époque, comme tout le monde voulait respirer, et respirer, et c'était plus facile, si tu veux. tu vois. Et donc, j'écrivais beaucoup, bien sûr, sur la folie, sur... Et par exemple, pour rapport à... Je te dis que je connais les choses vraiment très peu, mais par exemple, je me rappelle très bien d'avoir été dans le séminaire de Foucault, et je trouve justement dans le moment qu'il parlait de la prison, de l'enfermement, de la folie, et à la rue des écoles, comme ça s'appelle, là, et je suis allée deux fois. Et, c'est, et c'était curieusement, c'est-à-dire que je les comprenais très bien, tu me demandais sur Lacan, et je t'ai dit, je suis allée à la Sorbonne avec l'intention de suivre un séminaire de Lacan, j'ai rien compris, j'ai sorti, et j'ai dit, c'est pas pour moi, et quelques temps après, j'ai dit, quand même, il faut faire un effort. Et j'ai décidé de lire Lacan, et j'ai rien compris. Et j'ai déplaqué, et c'est fini, ma aventure avec Lacan s'arrête là.
Deux fois.
S'arrête là. Mais Foucault, par contre, on était beaucoup... C'est-à-dire, surtout, quand il entendait, c'était méridionnellement clair. C'est-à-dire, en plus, tu pouvais poser des questions. Je veux dire, c'était vraiment un autre milieu, une autre ambiance, un autre rapport au savoir. Ça, c'est important. Le rapport au savoir, c'est différent.
Et tu veux parler un peu de Cooper et Elaine.
Je l'ai connu personnellement parce que ses amis à nous, il était, et je ne vais pas raconter des choses
de
Cooper.
Non,
non,
non, ce que tu veux dire. Non, mais parce que j'étais
non, c'était un personnage. C'était un personnage incroyable.
Il est resté 4 jours à Trieste et il était sous tout le temps. C'est ça, c'est qu'il m'a dit.
Et pire que ça. Mais pire que ça. Mais je pense qu'il est mort. Je ne vais pas raconter des choses qu'en plus, je veux dire, Cooper, c'était. Je veux dire, le faire qu'il aille un aspect de... De toute façon, il était déjà un peu... Et je veux dire, quand il venait à Paris à l'époque de l'antipsychiatrie, je crois qu'il déjantait un peu déjà. C'est ma sensation. Hein. Ouais, ouais. Je veux dire, il faisait des choses qu'en plus, je veux dire, ça peut être désagréable, si tu veux, mais ça gênait personne. Moi, ça ne me gênait pas. Mais je veux dire, c'était ce qu'il était. Mais d'un autre côté, c'était un homme très affectif, vraiment. Tu vois, il avait un côté affectif très... J'ai dit, quand il te parlait, c'était...
Mais tu l'as rencontré dans ses réunions ou...
Non, je l'ai rencontré chez cet ami psychiatre. Que je crois que quand il venait, il dormait chez lui, ou il vivait chez lui. Donc, comme c'était notre ami, je l'ai connu là, dans des dîners, dans des discussions, mais discussions entre amis, comme ça.
Alors, tu parlais de la... Dès que tu es venue ici en France, en fait, j'ai une autre chose que je voulais parler, c'est cette idée d'exil. Donc, il faut dire que je ne vais pas parler de l'exil comme politique, donc il y a un exil forcé et triste, etc. Mais plutôt, on parlait de la figure de Joyce, et dans le sens qu'il avait quitté l'Irlande, parce qu'il devait, pas parce qu'il devait quitter l'Irlande, mais parce qu'il sentait qu'il étouffait en Irlande. Il avait vraiment besoin de partir et il a vécu dans chaque lieu en apprenant la langue, en essayant de devenir, bien sûr sans s'arrêter, en essayant de devenir un entre eux. Et comme une façon simplement, comme une espèce de nécessité d'artiste de se sentir étrangère. Donc, je voulais que tu me parles un peu de comment est-ce que tu es venue en France, de cette nécessité de se sentir étrangère.
Bon, je suis venue en France à la fin de la guerre d'Algérie. Et, c'est-à-dire, ça fait beaucoup d'années. C'était encore la fin de la guerre et je venais étudier. Je n'ai pas étudié beaucoup, mais j'ai appris beaucoup parce que je crois que j'ai vu tous les musées, toutes les expositions, tout ce qu'il y avait à Paris parce qu'on avait un boulimie vraiment de connaître.
Tu es venue étudier quoi
De l'art.
De l'art, mais je veux dire.
Je ne me suis même pas inscrite à l'école.
Mais l'idée, c'était de l'histoire de l'art.
Non,
de
l'art.
De l'art tout court.
Mais on n'a pas étudié. Bon, je n'ai pas étudié, bien sûr, mais on voyait énormément de choses. Et comme je t'ai dit, si je suis venue en France, d'abord, c'était parce que c'était très facile. C'était une nuit de train. Je veux dire, je vivais à Saint-Sébastien, c'est ma ville où je vivais. Et on passait très, très souvent en France pour acheter des journaux, pour acheter des revues d'art, même des livres, pour voir des films. Donc, je veux dire, de là à venir vivre à Paris, ce n'était pas une aventure. C'est pour ça que quand les gens disent l'exil, je ne vais pas être prétentieux, ce n'est pas ça.
Non.
Je suis partie, parce que comme je t'ai dit, je suis partie dans les années 60 pour apprendre, surtout pour apprendre. Parce qu'en Espagne, on n'avait pas l'information et on a dit pourquoi passer tout le temps, on s'installe à Paris et comme ça on a accès au savoir. Au savoir que nous nous intéressait, à les expositions, aux livres, etc. Et c'est comme ça qu'on est venu la première fois. Hein, je veux dire, je suis venue. Et ma sœur, elle habitait déjà à Paris. Et c'était une époque, c'était de Gaulle, mais c'était une époque super, super riche pour moi. Et je veux dire, c'était incroyablement. Et les Paris de la France d'alors, c'était vraiment pas la France d'aujourd'hui, hein, malheureusement.
C'était autre chose.
Et c'était autre chose. Il y avait la censure, il y avait beaucoup de choses, mais il n'était pas, je veux dire, pas simple. J'ai vécu longtemps sans papier.
Ok, je vois.
Je veux dire, mais je te dis, c'était à l'époque, j'ai cherché comme moi, et dans le Figaro, disait au père s'abstenir espagnol. Et personne ne s'est formalisé. C'était
non,
parfaitement normal. On ne faisait pas de manip ni rien. Mais après, comme je te dis, on a eu la chance que derrière les Espagnols venaient les Portugais. Et alors, c'était l'abstention, c'était le portugais. Nous, on avait monté dans la catégorie et on était recherchés. Mais je veux dire, c'était comme ça. Alors, j'étais là. Et après, je suis rentrée en Espagne pour étudier tout ça et tout ça. Étudier vrai de vrai. Et après, bon, on a fait cette tournée avec Sarr. Parce qu'entre-temps, je dirais...
C'était que parce que Sarr, c'était un groupe espagnol.
Et Sarr est un groupe espagnol. Je veux dire qu'on faisait des performances en Espagne à partir des années 60... Bon, en réalité, 64. Je me suis commencé dans les années 67. Fin 66, 67. Et on faisait des performances en Espagne. Que faire des performances en Espagne avec Franco, j'étais sûr que ce n'était pas la même chose que maintenant. Mais, au retour de l'Amérique, parce que Keith nous a fait un tournée, et c'est lui qui l'a organisé, les tournées en Amérique. On a été presque 3 mois en faisant des performances partout, de New York à San Francisco. Et en rentrant en Espagne, encore une fois, j'ai dit, je ne peux plus supporter vivre sous Franco, c'est trop. Je ne peux pas vraiment le supporter. Et j'ai décidé de partir encore une fois. C'est pour ça que ce n'est pas un exil, parce que je suis venue personnellement, librement, parce que j'ai voulu, et parce que psychologiquement, c'était trop. Et je ne vais pas dire que je vivais facilement. Hein. J'ai fait beaucoup de chantiers. Hein. J'ai fait la peinture de beaucoup de maisons. Hein. C'est parce que j'ai la chance, dès qu'il avait une équipe d'Espagnols,
oui.
La plupart des Anar.
C'est les dans l'exil.
Oui, qui vivaient là depuis un Anar et qui cherchaient toujours des gens pour peindre les maisons. Et je faisais beaucoup de peintures de maisons avec eux. C'est avec eux que j'ai appris d'ailleurs à mettre à faire ça, avec les Espagnols Anar. Et que j'ai toujours eu des sympathies, comme tu sais, pour le mouvement anarchiste. Et j'ai eu la chance aussi d'être.
Le mouvement anarchiste espagnol, oui. Qui s'était exilé après la guerre.
Pardon? Non, c'était des gens qui avaient mon âge, un peu plus âgés que moi. Ils avaient 5, 6, 7 ans plus que moi. Mais tous fils de bourgeois, qui avaient, comme la guerre d'Espagne, il a changé la vie de beaucoup de gens.
Oui.
Je veux dire, pas la mienne directement, mais ces gens-là, oui. Et oui. Ils sont partis, ils se sont déclassés. Ça, c'est quelque chose de très important. Ils se sont déclassés complètement d'un milieu bourgeois qui était le sien. Ils sont venus dans un pays qui n'était pas le sien à faire des travaux comme des travailleurs manuels. Des gens super, super intelligents. Je veux dire super engagés, super détestés pour tous les gens de bien. Détestés à mort.
Des gens de 20 quelques cents. Tu parles des gens entre 20 et 30 ans qui étaient partis de l'Espagne.
Oui. Après la guerre.
Oui, après la guerre.
Après la guerre.
Après la guerre.
Et après la guerre. Et je veux dire, après la guerre, bon, bien sûr, mais après la guerre d'Espagne, quelques-unes, parce que c'était des enfants des républicains, des autres, parce qu'ils étaient des enfants des franquistes, mais eux, ils refusaient ce milieu.
Oui.
Je veux dire qu'il en avait de tout. Et nous on vivait avec eux, je veux dire, c'était notre monde, non? Il y avait des artistes.
Aussi?
Des artistes. Oui. Et des artistes qui, à partir de quelques-unes, vivaient en France avant nous. Et des artistes qui, à mai 68, ils avaient laissé définitivement de faire la peinture. Tu vois?
Quand?
Après 68.
Ah oui, pourquoi?
Parce que pour eux, continuer à faire de l'art, c'était collaborer avec un système.
Après les 68?
Après 68, pas seulement des hommes, des femmes aussi, j'ai connu, qui se sont arrêtées.
Et pourquoi les 68? Ça a quelque chose avec mai 68?
C'est après mai 68.
Ah, okay.
Et c'est curieux, je vais te dire une chose. Quand, je ne sais pas si je parle trop peut-être.
Non, pas du tout, mais c'est toi qui dois parler.
C'est dire que 20 ans après 68, que j'étais à 68, parce que Sartre faisait une performance dans le musée d'art moderne de la ville de Paris, des jours avant ou après, je ne me rappelle plus, qui a commencé toute la situation. Et nous, on était arrivés la veille, et on avait rendez-vous dans les quartiers latins, Juan avec Walter et moi, et j'étais avec Juan, et tout à coup, on attendait Walter dans les cafés, et il nous a mis à la porte, et tout le monde commençait à fermer les rideaux et tout ça. Nous, on venait d'un tournée dont on n'était pas trop au courant de comment se passaient les choses. On se trouve dans la rue, avec tous les cerises, les paniers à salade qui jetaient de l'eau, tu vois, à l'époque, de l'eau. Et nous, on a commencé à courir. On a sorti des quartiers latins à 3h du matin. On a eu la chance de trouver Walter dans un café des rares qui n'était pas fermé et qui avait fermé par devant, mais on pouvait rentrer par derrière, par la porte. Et on l'a trouvé, on avait laissé comme ça, des 2h de l'après-midi, parce qu'on avait des rendez-vous à 2h, jusqu'à 3h du matin. On a resté au quartier latin, c'était vraiment, si tu ne l'as pas vécu, c'était impressionnant. Et quand, à 3h du matin, Juan Walter et moi, on s'est promené dans les quartiers latins. Il avait des tout, des tricots, des pantalons, des tout. J'ai pris des choses. Et les premiers pavés, je les ai pris. Et des œuvres que j'ai faites avec des pavés, je les ai pris.
C'était des vrais pavés sous les pavés de la plage.
Ma pièce s'appelle Sous les pavés de la plage.
Ah oui?
Sur les pavés, l'argent.
Ah, ok.
Oui. Voilà. Oui. Mais je veux dire que c'est le milieu. Mais malgré tout, c'était un exil qui n'était pas. Parce qu'en plus, je savais comment il y avait des gens qui ne pouvaient pas retourner en Espagne. Moi, je pouvais retourner en Espagne quand je voulais. Moi, c'était une fois que j'étais dans les commissariats, que j'ai passé 24 heures, je ne sais pas quoi que ce soit, mais c'était dans l'époque, parce que l'époque de l'université, quand on était avec la police, nous a ramassé, on nous a amené à. Je ne peux pas dire que ça, c'était vraiment quelque chose.
La raison pour laquelle tu es resté ici, c'est simplement parce que ta vie était ici.
Oui, c'est-à-dire. Et de toute façon, je trouve que c'est très, très bien d'être en étrangère. Maintenant, tu es étrangère partout. Et en plus, je veux dire.
C'est l'avantage aussi que j'habite à Barcelone, là, je suis aussi un peu étrangère.
Non, mais je veux dire, l'avantage aussi, c'est que, bon, malgré les différences énormes qu'il y avait des points de vue, de qualité de vie, de culture et tout ça, entre l'Espagne et la France, je n'ai pas eu à m'adapter à un pays. Je veux dire, la culture française, c'était ma culture aussi. Je veux dire, je n'ai pas eu à faire un effort énorme, comme je n'ai jamais voulu qu'il m'adopte, qu'il m'accepte, qu'il m'aime.
Tu n'as pas la nationalité française.
Tu vois, non, je n'ai pas la nationalité. Mais pas pour autre chose, c'est simplement parce qu'il faut faire de la paperasse. Oui. Et moi, je suis horrible pour ça. Alors, je veux dire, je dis toujours, si on me la donne, si on sonne à la porte et me dit, madame, vous savez la nationalité française, je dis très bien. Oui. Mais faire des papiers pour ça, définitivement, non. Okay. Je ne les ai pas fait. Quand mon mari a demandé la nationalité française.
À lui, quand même.
Parce qu'il avait honte. Il a raison, il est américain, il a des raisons pour demander la nationalité française, pas moi. Et on. C'est juste. Et ils m'ont demandé d'écrire une lettre pourquoi je ne voulais pas être française.
Ah oui?
Que je suis sûre que c'est illégal. Mais comme Tony tenait en main à demander sa nationalité, parce que c'était l'époque de Bush, et Tony ne pouvait plus supporter, j'ai dit, si je commence à faire des questions, peut-être on va les gêner. Alors j'ai écrit là, pourquoi je ne voulais pas la nationalité. Mais ils m'ont obligé à faire ça.
Mais qu'est-ce que tu as dit?
J'ai dit que je n'avais pas. La même chose que je t'ai dit. Que s'ils veulent me la donner comme ça, gracieusement, je serais ravie de voir la nationalité française. Mais, qu'étant déjà dans la communauté européenne, je veux dire, de toute façon, on était tous des Européens, non? C'est ça qu'ils ont dit. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais.
Et quand
je suis venue en France, les Français disaient Afrique commence dans les Pyrénées.
C'était sympathique.
Oui, c'était très sympathique. Mais maintenant, ça ne commence pas dans les Pyrénées.
Ça commence où? Ok. Bon, c'est Bon, c'est un peu idiot de dire pour finir, mais il y a comme on a fait, on a discuté avant, on a pensé de l'aide pour ne pas vous ennuyer trop. Et on voulait discuter de ça, de l'idée d'exil, l'idée d'être étrangère, et, mais parce qu'évidemment, il y a cette situation que j'ai fait le pavillon cette année en 2011, et Esther l'a fait en 1999. Donc évidemment, je crois que la chose, pour chercher un peu de, comment dire, d'affection dans mes problèmes, etc. Même si je crois que ça change, on ne peut pas comparer la situation, etc. Donc je voulais la demander, en fait, et demander à Esther, d'une façon beaucoup plus générale, des relations entre artistes et État. Donc, parce que pour moi, la chose la plus douloureuse, je veux dire, dans cette situation, c'est que je suis obligée de traiter avec l'État. Et j'ai toujours eu quelqu'un qui le faisait pour moi. Donc, quelqu'un qui était entre moi et l'État, parce que l'État est toujours. Mais maintenant, je dois parler directement avec l'État. Et la raison principale, c'est qu'on ne parle pas la même langue. On ne se comprend pas. Et je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce que je veux. Je crois qu'on s'en fout tous les deux. Et donc, on est dans une cohabitation forcée. Et donc, d'une façon plus générale, pas seulement dans l'idée de Venise, quelle relation tu crois que l'artiste, tu m'as dit que tu es anarchiste, que tu es républicain. Je ne sais pas si c'est public, j'imagine que oui. Que tu es anarchiste et républicain.
Je ne peux pas nier, c'est que
mais évidemment. Alors, les relations que tu as avec quelqu'un qui a représenté l'Espagne, quelqu'un qui a reçu les prix d'art plastique, prix national d'art plastique, et avec dans ton cas, mais aussi en général, les relations de l'artiste avec l'État. Et je n'ai pas parlé de ça avant avec toi, mais il y a par exemple, il y a des gens qui ont beaucoup parlé quand Santiago Sierra a refusé.
Qui ?
Santiago Sierra a refusé les prix national d'art plastique, donc dans ton cas, mais aussi au Vran en général, relation entre artistes et État, un peu.
Oui, je te dis,
c'est inévitable.
Mes relations, je te dis, sont très.
Oui,
très,
mais il faut que tu dises.
Bon, mes relations sont vraiment très, très, très réduites. Je dirais, on m'a téléphoné un jour pour me proposer si je voulais être représentée d'Espagne à la Biennale de Venise. Et je me dis pourquoi, vraiment, parce que je ne suis pas le type d'artiste.
Ah, mais justement, et pourquoi tu croyais ça?
Et
pourquoi tu croyais que tu n'étais pas le type d'artiste?
Malheureusement, je croyais que je n'étais pas, mais apparemment, j'étais. Bon, alors, on m'a proposé ça, j'ai dit oui, et avec certaines conditions qui ont été parfaitement acceptées. Et j'ai dit, après un autre jour, un autre coup de téléphone, on m'a dit qu'on m'avait donné le prix national. C'est pourquoi je n'ai pas demandé pourquoi. Mais je veux dire, on me l'a donné, j'ai accepté les prix. Hein, quoi. Et après, qu'est-ce que j'ai fait plus avec l'État? L'exposition que j'avais fait, une exposition que quelqu'un de la CASEX l'a vue et il me l'a proposé de que ça voyage. D'accord? Et je crois que c'est tout. En France, je n'ai pas de relations non plus. Je veux dire, j'ai fait beaucoup de choses, par exemple, pour dire à Beaubourg. Mais c'est rarement, je crois que c'est cette année, c'est la première fois qu'on m'a invité directement à moi, c'est un dirigeant directement à moi. Normalement, j'ai fait toujours des choses à Beaubourg, mais c'est quelqu'un d'autre qui a organisé quelque chose et qui alors, je suis inclus dans cette chose. Donc, j'ai fait des performances ou des exposes ou des choses comme ça, mais j'ai très peu de relations, je te l'ai dit, avec l'institution. Mm-hmm. Je veux dire, si on me demande, j'accepte, mais je ne la cherche pas.
Mais
comme je te dis, c'est un héritage franquiste. C'est un héritage. Nous, quand j'ai vécu en Espagne, collaborer avec le système, c'était impensable. Je veux dire, demander de l'argent, demander, ça, c'était impensable. Alors, ça ne nous passait même pas pour l'esprit. Je veux dire, on ne se posait même pas les problèmes, ça n'existait pas. Mm-hmm. Dans ma génération et dans les milieux où je vivais, dans les autres milieux, je ne peux pas dire. Dans notre milieu, Sartre n'a demandé jamais un centime, rien. Jamais, jamais, jamais. Il n'a jamais cherché à faire des choses dans les trucs officiels. On faisait dans l'université, dans des galeries, dans des lieux comme ça. Je veux dire, le musée, je crois, très rarement aussi. Donc, pour moi, c'est normal. Je veux dire, moi, je suis contre une série de choses. Je n'ai pas demandé de l'argent à ces gens-là contre lesquels je suis. Donc, comme je te dis tout à l'heure, si je serais, si je crèverais de faim, si j'aurais 4 enfants qui doivent manger, etc., peut-être je m'humilierais, j'irais, je demanderais. Mais comme ça n'était jamais la situation, je n'ai pas eu à le faire. Donc, je ne l'ai jamais fait. C'est pour ça que je ne peux pas parler. Ça me surprend énormément, parce que, comme on parlait tout à l'heure, ces artistes, que même avant de faire quelque chose, ils ne le font que s'ils ont de l'argent, des institutions ou des trucs comme ça. Je n'ai jamais fait ça. L'art que j'ai fait, je me le paye. Hein? J'ai la chance que je travaille pauvre, que mes œuvres ne coûtent pas énormément d'argent. Mais ça, c'est un choix. Hein? Un choix de faire de pas travailler avec des moyens chers. Hein? Entre autres choses, parce que le plus cher, c'est la technique. Je suis vraiment très mal habile et je ne me retrouve pas. Donc, j'ai eu la chance de choisir une façon de faire qui me permet...
Mais le bronze est cher aussi.
Et?
Le bronze est cher aussi. Je veux dire, tu fais aussi les bronzes.
J'imagine.
J'imagine, je m'en doute. Mais je veux dire, ce n'est pas seulement la technique, c'est aussi la volonté de ne pas avoir des choses monumentales.
Que j'aime pauvre, mais j'aime l'art pauvre, mais dans tous les sens du terme. Ça, c'est vrai. Donc, ça m'a permis de pouvoir subsistir et travailler en faisant. Après, comme je t'ai dit, j'ai eu aussi la chance. Pendant 11 années, j'ai travaillé pour payer mon travail. C'est-à-dire, pendant longtemps, mon travail me coûtait de l'argent. Je ne gagnais rien, personne ne me cherchait. Je veux dire, et quelque part, c'était très relax. Et peut-être c'était très confortable. Je veux dire, je faisais mon travail. Je veux dire, à l'époque, surtout quand je venais en Espagne, je veux dire, l'époque de la performance, l'époque de ça, c'était presque fini. Pas tout à fait immédiatement, mais un peu plus tard. Donc, je veux dire, on était vraiment relax et je n'avais pas besoin. Je veux dire, de toute façon, je dois dire une chose que peut-être c'est horrible, mais c'est ça. J'ai fait l'art pour moi. Si j'ai fait pour moi, c'est mon procès.
Ça, c'est horrible.
C'est mon procès. Et c'est mon procès. Je l'ai fait parce que c'est un chemin. Et j'ai continué cette semaine que je suis en train de faire. Hein, parce que, comme disait Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Voilà, les semaines, on les fait en marche. Et je marche, et je veux dire, je n'ai pas besoin d'autre chose que pouvoir continuer à marcher. Je n'ai pas besoin. J'ai besoin de pouvoir continuer à marcher. Et pour ça, il ne faut pas beaucoup. Tu vois, il faut... Bien sûr, pouvoir manger tout ça et tout, mais c'est...
Le minimum.
Exactement, le minimum.
Mais je crois que avec cette déclaration, on pourrait ouvrir pour tes questions au public, ça te paraît?
Pardon?
On ouvre, jamais il y a quelqu'un qui veut demander, parce qu'on ne peut pas les nier, ils sont là.
D'accord.
Alors, peut-être il y a quelqu'un qui a une question pour Esther ou pour moi, je ne sais pas. Et sinon, on ouvre la porte. Aucune question? Rien du tout? Vous avez l'occasion maintenant,
c'est une occasion unique.
Maintenant ou jamais.
Je trouve ça intéressant, là ça s'adresse à Dora, mais c'est aussi Esther, pour rebondir là-dessus, c'est d'être parlé du lien entre l'âme et l'antipsychiatrie. En tout cas, ce que toi Dora, ce qui t'intéresse dans ce projet de mal marginal et qui motive toute la recherche, toutes les rencontres que tu fais, et toutes les autres perspectives qui se dessinent à travers des figures comme Deligny ou Lacan. Et voilà, parler de cette articulation-là, peut-être essayer de développer un petit peu cette chose-là, Mme Esther aussi, sur la relation entre l'art et l'antipsychiatrie, à travers ce qui a émergé à ce moment-là dans les années 70 et qui était très très fort.
Oui, mais moi, peut-être, Dora peut le faire mieux que moi. J'ai toute mon expérience avec l'antipsychiatrie, je l'ai déjà dit, tout ce que je peux dire. C'est-à-dire, je m'intéressais à ça d'abord parce que j'étais en France, je venais d'Espagne, que, comme on a dit et répété, c'était comme en prison. Et parce que, je veux dire, la sensation d'enfermement, même pour un artiste, beaucoup de fois, tu as la sensation que tu vis dans un monde, je veux dire, que tu es entouré, que tu vis une espèce de lieu isolé, tu vois, je veux dire, et que tu ne communiques pas avec les autres. Et je pense que beaucoup d'artistes comme moi, Et ce n'est pas pour rien, parce que quand je te dis, dans cette mouvance, et dans cette colloque, et dans cette discussion, il y avait très souvent des artistes oui. qui n'avaient rien à voir, comme moi, avec le monde de la psychiatrie. Mais il y avait le monde de l'enfermement, le monde de la répression. Et, mm-hmm. Ça veut dire, c'était surtout ça. Et parce que quand on enferme les gens, on les réprime. Et, je veux dire, il avait toute cette sensation de la répression que nous, on avait vécu avec Franco. Je veux dire, pour nous, moi, je pense que pour moi, c'était absolument normal. Tu vois, je veux dire, en venant de l'Espagne, tu te trouves face à un mouvement comme ça. Je veux dire, et tu rentres là-dedans, et tu écoutes, et tu lis, et tu essayes d'apprendre. C'est normal, mais je suppose que je l'aurais fait exactement pareil si je n'étais pas artiste. Absolument. Ça, c'est sûr. En plus, à l'époque, j'ai fait toujours des choses, parce que j'avais commencé à faire ça dans les 67, mais je pense que si j'aurais été postier, je me serais aussi intéressée. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des médecins, des infirmières et des artistes. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient ni l'une ni l'autre. Il y avait beaucoup de professeurs, par exemple. Beaucoup de gens des écoles qui s'intéressaient. Il y avait bien sûr des universitaires aussi.
Oui, et moi, pour le dire d'une façon très simple, parce que ça, c'est très relatif à toutes ces publications, etc. Et disons que je crois que dans le travail que j'ai fait, il y a toujours cette recherche de la relation entre l'artiste et le public, qui peut se traduire en beaucoup de pairs, artiste, public, auteur, lecteur, marché, artiste, mais aussi, je crois, individuel et institution, d'une façon très individu et société, individu et État aussi, donc ce sont tous des pairs qui font des négociations similaires. Donc c'est à partir, j'ai commencé à lire les livres de Goffman, et avec la présentation de Self in Everyday Life, et là j'ai commencé à lire Asylums, qui est une étude de la conduite, les changements de conduite et de personnalité que les gens souffrent quand ils sont institutionnalisés. Donc à partir de là, j'ai commencé à lire Passaglia, et donc il y a deux choses. D'un côté, il y a cet courant qui a très peu à voir, comme je dis, avec la psychiatrie, avec la médecine. Avec la psychiatrie, oui, avec la médecine, rien. Et beaucoup à voir avec la société, l'économie. Et d'un autre côté, il y a aussi quelque chose que j'aimais depuis beaucoup plus de temps, et c'était l'idée de outsider art, l'idée de ce qu'on appelle outsider art. Donc l'histoire fascinante de Entarte de Kunst, l'histoire fascinante de la collection Prinzhorn, de la fondation de Dubuffet, le concept de l'art brut, comment il définit l'art brut. Je crois que seulement on lit les décalogues de Lausanne, comment on définit art brut, et on devient immédiatement antipsychiatre. Et donc, toutes ces choses, quand on définit outsider art, il est exactement hors quoi. Donc, c'est à partir de ces deux formes que je m'ai intéressée aussi, parce qu'évidemment, il y a aussi par l'amour des artistes comme Artaud. Et, je ne sais pas, maintenant j'ai tout oublié, mais il y a, je ne sais pas, il y a un autrichien qui est un écrivain, donc il y a des très grands artistes. Il y a évidemment, tout le monde sait, une relation forte entre la maladie psychique et la création.
Être artiste, c'est un malade.
Mais oui, il y a, justement, je ne vais pas m'étendre trop parce que j'ai peur d'ennuyer les gens, mais on va parler de ça après. Mais justement, c'est un peu ça. Il y a la définition. Il y a, par exemple, l'histoire de Joyce et Lucia et sa fille qui était schizophrénique. On disait à ce moment-là, peut-être il était une autre chose aujourd'hui. Mais dans l'idée qu'en fait c'était la maladie de Joyce, et il n'avait pas souffert parce qu'il était écrivain, donc c'était la création de santé, et quand on n'arrive pas
oui, mais la fille était danseuse aussi.
Oui,
hein,
oui.
Je veux dire,
mais apparemment, elle n'avait pas...
C'était trop fort, peut-être, voilà. En relation avec le père, non?
C'est ça, c'est un cas extraordinaire.
Parce qu'elle avait aussi les moyens en plus de créer. Mais...
Oui, mais elle n'a pas créé à soi-même, il n'avait pas l'ego monumental de son père. Oui, ou quelque chose comme ça. C'était une histoire complexe.
Oui.
Le père. Bon, alors pour tout ça.
Mais par exemple, Lola, tu ne crois pas qu'aujourd'hui, le monde qu'on vit, politiquement en France ou en étranger, dans tout le monde, mais concrètement en France, c'est tellement difficile de la France, tellement différent de la France des années 70. Hein. Mm-hmm. Je crois que pourquoi on n'invente pas des formes de lutte différentes? Je veux dire, je trouve très bien que tu fasses l'historique de toute cette lutte, de tous ces gens qui ont ouvert des chemins dans la conception des choses et dans la façon de réagir et de tout. Mais c'est bien regarder le passé. Mais je pense que dans la situation actuelle, en France et en Espagne aussi, et en partout, c'est quoi que, artiste ou pas artiste, on devrait se concentrer, on va inventer des formes de lutte différentes. Et je veux dire, j'ai la sensation qu'à ce niveau-là, on est encore presque au 19e siècle, tu vois. Mm-hmm. Et tu as bien vu la manifestation d'hier, 1er mai, c'est-à-dire ça ne marche même pas. Tu vois, ces structures ne marchent même pas, ne mobilisent pas, c'est fini.
Alors, je veux dire, parce que c'était le jour de la mer aussi.
Non, mais je veux dire, je pense que peut-être, vraiment, artiste ou pas artiste, parce que ça, je m'en fiche, je veux dire, ce qu'on pourrait penser, je veux dire, on va inventer des formes de lutte inédites qui soient efficaces. Parce que maintenant, toute cette façon, je crois qu'elles sont très inefficaces dans ce moment-là. Il faudra penser des choses efficaces. Mais quoi ?
D'abord, il faut identifier l'ennemi.
Voilà, c'est beaucoup plus difficile.
Ouais.
C'est l'avantage des dictateurs.
C'est vrai, on les identifie très facilement.
Tu sais parfaitement où est l'ennemi, c'est ciblé. Tu vois, et tu sais qui est l'ennemi et qui n'est pas l'ennemi. Ici, tout est diffus.
Voilà.
Tout
est... Il faut une résistance factale. Ouais. Alors, il y a la question encore.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme forme de lutte jusqu'à présent?
Il y a eu toutes les luttes ouvrières, hein, je veux dire, à partir du 19e siècle, il y avait tous les mouvements, les syndicats, les luttes syndicales, il y a eu la lutte, par exemple, l'antipsychiatrie, tous les mouvements antipsychiatriques, c'était un mouvement de lutte, pas seulement de lutter contre l'enfermement, hein, je veux dire, ça c'était, comme on dit, la motivation, mais ça supposait l'enfermement des têtes. Aussi, et pas seulement l'enfermement des fous dans les hôpitaux, c'était ouvrir les hôpitaux et ouvrir notre tête aussi. Hein, pour après, il y a quelque chose qu'on ne peut pas passer par où, la libération des femmes, les mouvements de libération. Ça a été, pour moi personnellement, un des faits plus importants du XXe siècle, après la deuxième... Pardon ? Bien sûr, ce sont des luttes qui continuent, mais même le féminisme, par exemple, peut-être, même le mouvement féministe, peut-être il faudra les rediscuter. Et parce que je suis absolument contre ce que dit qu'on est dans une période post-féministe. C'est pas, pour moi, ce n'est pas vrai, ce n'est pas pour le reste du monde. Mais je pense que le mouvement féministe, pour ça, il a encore beaucoup à dire et à faire. Hein, absolument, surtout dans des moments de réaction comme maintenant, tu vois bien qu'on est en train de couper toutes les choses qu'on avait arrivé à voir avec une lutte forte pour l'avortement. Et maintenant, ils essaient de reculer. Ça veut dire, dès qu'on dit, bon, on va se reposer un peu, ça veut dire, le recul commence. Et donc, et par exemple, une des choses que j'ai constater, et ça c'est peut-être notre génération qui ne l'a pas bien fait, c'est que les jeunes filles, les filles aujourd'hui qui ont 20 et 30 ans, sont beaucoup moins mobilisées du point de vue féministe que nous on était. Je suis toujours surprise, par exemple, quand je vais dans des manifestations pour des questions de femmes, qu'il y en a très peu, mais que normalement la majorité sont des gens de ma génération. Tu vois, j'ai 73 ans. Je veux dire, et péter les filles de quelques-unes, tu vois, mais nous, on s'est manifesté dans les années 70. Et j'avais à l'époque, 47, 47, 57, 67, 70, j'avais 30 et quelques années, et on était dans la rue. Et maintenant, c'est très difficile à mobiliser. Alors, je me demande, parfois on discute, et je dis, peut-être il y a quelque chose qui en a fait mal. Peut-être on n'a pas transmis ce qu'il fallait transmettre, peut-être la société qui assimile tout, qui récupère tout, mais je me rends compte que dans certains milieux aujourd'hui, être féministe, c'est vieillot. Tu comprends? Mais comme je dis, comme je suis vieille, ça va bien.
Ça a changé dans peut-être des jeunes filles ne manifestent pas dans les rues, mais plutôt par Internet ou...
Ça peut-être, ouais, ça je ne peux pas le dire.
Et que c'est, peut-être ils ont changé de moyens, ils ont trouvé que ce n'était
pas peut-être, la place. Peut-être, mais par exemple, je me rappelle une chose qui m'a vraiment surpris, et quand pour citer quelque chose que tout le monde connaît, quand l'artiste Trétignant, oui. Il a été tué. Je suis allée dans des manifestations et on était tous des vieilles. Je veux dire, et quand même, c'était une femme qui avait été tuée, que tout le monde connaissait, qui était, et on était tous, sauf bien sûr, que normalement on était des filles, mais on était tous des vieilles. C'est-à-dire, ça me déprime, hein. Ça veut dire, ça me déprime parce que, c'est, comme on dit, Dola, maintenant, l'ennemi, elle est très, très diffuse, tu vois, et surtout, bon, ça c'est peut-être, Dola, c'est pas si...
Il n'y a rien à cacher.
Non, c'est pas que tu as rien à cacher, mais si ça rentre dans les trucs de la conversation...
Ah non, tu le livre.
Je veux dire, par exemple, une chose qui m'inquiète un peu maintenant, c'est que l'art féministe... Par exemple, beaucoup d'art qui se présente comme féministe, fait pour des conservateurs, ou des curators, ou des critiques, ou des galeries, je veux dire, en réalité, c'est, pour moi, c'est presque antiféministe. Tu vois? Alors, je veux dire que ça, c'est un phénomène, je crois, qu'on pourrait analyser entre nous. Hein? Je veux dire, cet art qui a la forme purement de féminisme, mais en réalité, c'est correspondent à des valeurs, je veux dire, machistes, réactionnaires, etc., tu vois, des voyeurs, etc. Ça, ça, c'est un des luttes qu'on peut faire maintenant qu'on a la mode, que les femmes, on est à la mode, le féminisme est d'un certain mode, et tout ça, on fait des expositions et tout ça. Je veux dire, il faudrait peut-être discuter, je veux dire, par où on va, tu vois, les dérives de... sans faire de la censure, et que je ne vais pas faire de la censure, mais passant dans les terrains de performance, hein, que c'est mon terrain privilégié, je vois parfois des artistes très jeunes, tu vois, qui font des performances soi-disant féministes, mais qui en réalité, pour moi, personnellement, ne le sont pas. Et je suis d'accord, par exemple, que la femme ne se refuse pas les moyens ou les façons de faire masculines, hein, parce que pourquoi, je veux dire, le sexe s'approche à quelque chose de plus, en plus les généraux sont une formation comme une autre. Mais par exemple, ça me surprend l'emploi de la violence. Tu vois, avant, la violence était dans l'art de performance.
La violence, et
dans l'art de performance, ce côté masochiste, des souffrances, etc., c'était spécifiquement des hommes. Et avec tout ce que ça véhiculait, et pour le bon et pour le mal. Et maintenant, par exemple, je vois ce langage et dans les corps des femmes. Et je veux dire, c'est des problèmes que je me pose. Je m'interroge, et je me dis, qu'est-ce que j'essaie, et parfois j'essaie de discuter avec des autres artistes, et même peut-être ça sera bien de faire des discussions sur des sujets comme ça. C'est-à-dire parce que c'est un sujet, si tu veux, féminisme, mais nous concerne à tout, parce que c'est la société entière qui est en train de vivre ce changement. Tu vois? Mais par exemple, pour te dire des luttes, c'est la lutte féministe parce que les femmes, ils luttent pour les femmes. Non, on lutte pour la liberté. Et parce que si notre libération libère aussi les autres. Hein, je veux dire, les libérations, on casse les schémas de qu'est-ce que c'est mâle, de qu'est-ce que c'est femelle. Hein, et on peut être beaucoup plus libre et adopter des comportements, je veux dire, beaucoup plus librement que. Théoriquement appartient à l'autre, mais tu les assumes, tu les utilises et on s'enrichit tout le monde, tu vois. Et de toute façon, pour parler encore une fois d'art, je suis absolument convaincue que l'art féministe, ce qu'on appelle l'art féministe, a enrichi le monde de l'art et en introduisant dans le monde de l'art des sujets qui étaient complètement marginaux et des sujets qui existaient déjà en les traitant d'une façon très très différente et beaucoup plus riche et sans tabou. Et je trouve que, par exemple, on ne peut pas oublier ça comme élément important de l'évolution de la deuxième part du XXe siècle. Je pense que pour nous, pour ma génération en tout cas, ça a été super important et ça continue à l'être.
Est-ce que vous pourriez donner par exemple l'exemple d'une action que vous auriez faite dans un hôpital psychiatrique un exemple précis. Quel genre de lutte vraiment précisément, si vous vous souvenez d'une action que vous avez faite?
Oui, non, je me souviens pas. Je me souviens pas. Je sais qu'il y avait beaucoup d'actions et beaucoup de manifestations. Et je veux dire, je me rappelle, mais vaguement, je veux dire, des manifestations qu'il a eues. Bon, il avait beaucoup de choses, mais je ne me rappelle pas, non. Je ne me rappelle pas. Je veux dire, je risque d'inventer.
Mais je crois que l'action principale, c'était de sortir.
Donc, oui. C'est ça, c'est le plus sortir. Le fondamental, c'était perdre le père de la folie. Hein? Considérer que les fous, ce qu'on appelle fous, pouvaient s'intégrer dans la société, mais d'abord, un effort de l'institution psychiatrique et de tout le monde médical pour perdre eux-mêmes la peur et que ça c'est possible et après changer notre mentalité. Et je veux dire parce qu'avoir un voisin qui est dans les psychiatres et qui a été dans les psychiatriques ou un appartement avec trois malades et qui sont soignés extérieurs aux psychiatries parce que c'était ça la question, créer des appartements de façon que ces gens puissent vivre en vie soi-disant normale, c'est maintenant... Ça sera aussi un problème aujourd'hui si on dit dans ta copropriété, dans ta maison, qu'on va mettre un appartement où on va mettre six fous qui viennent de Saint-Anne. Et je veux dire, mais la question c'était surtout ça, à ce niveau, changer tout ça, et perdre la peur de la folie, étudier la folie comme répression, je veux dire l'internement comme répression, évidemment, comme protection de certaines valeurs. Et ce n'était pas les nôtres, et qu'on voulait vraiment finir avec. Et c'était ça la lutte. Pour moi, c'était plutôt un truc mental, mais des changements de société. Parce que c'était déjà pas évité en Italie. Il a eu beaucoup de problèmes à l'époque, quand il mettait les fous dans des appartements. Tu vois, il sortait de la scie.
Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la sociothérapie. La sociothérapie a commencé.
Pardon?
Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que la sociothérapie a commencé?
Je ne sais pas très bien qu'est-ce que c'est la sociothérapie.
Moi non plus, mais bon.
Hein, je ne sais pas. Bah, c'est-à-dire que soigner, c'est-à-dire que se rencontrer, discuter des problèmes de la folie ensemble, de psychiatre, et puis...
Mais il faut savoir simplement que l'antipsychiatrie était antithérapeutique. Je ne croyais pas à la thérapie.
Même si parfois, je veux dire, il n'éliminait pas définitivement les côtés médicaux, hein, pour ce que je me rappelle.
Non, en fait, il y a aussi la partie obscure de l'antipsychiatrie, dit que l'antipsychiatrie et l'ouverture des hôpitaux mentaux, c'était seulement possible parce que pour les médicaments, pour les psychopharmacos. Donc, ce qu'on appelle l'hôpital mental. Non, pas mental, non, ça fait de mental, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'institution, l'institution est dans la tête. Et aussi, d'un côté, il y en a ça, mais de l'autre côté, il y a comme une espèce d'explosion de psychopharmacos, parce que presque maintenant, je crois que c'est un de chaque 10 citoyens prend des psychopharmacos. Donc, il y a maintenant,
oui, c'est explosé
partout.
À l'époque, j'ai parlé déjà de beaucoup de ça, hein, de finir avec les pharmacos et tout ça. On parlait de ça, mais si je me rappelle bien, hein, c'était pas qu'il fallait exclure définitivement et totalement toutes sortes de médicaments pour ce qu'on appelle les fous. C'était pas ça. Hein. C'était surtout essayer de les intégrer dans la société, de vivre et que la société soit capable de les assumer et de vivre avec eux. Hein. Je veux dire, comment c'était de fait. Et je me rappelle quand je vivais à la rue des Secours, tu vois, et je vivais dans un quartier, et là, il avait dans la rue 3 ou 4 fous, tu vois, mais que c'était parfaitement accepté, et il avait une dame qui passait sa journée à parler par la fenêtre, tu vois, il parlait avec tout le monde qui passait, il délirait. Après, il avait une autre monsieur qui était habillé un peu comme Napoléon. On les connaissait tous, et on parlait avec eux, et il s'était certainement fou à craquer. Mais ça ne le suffisait pas de vivre. Il avait une autre qui adorait tout le monde. Et dès qu'il te voyait dans la rue, il t'embrassait, il te disait qu'il t'aimait beaucoup et qu'il priait pour toi et tout ça. Et j'ai pensé, ces gens-là, un jour, on va les enfermer. Tu vois, parce qu'ils sont fous. Et ils pouvaient vivre parfaitement dans la société. Et de fait, un jour, ils sont disparus. Petit à petit, ils sont disparus. C'est curieux. Hein? C'est pour ça, je pense que c'était beaucoup plus qu'une lutte qui a été matérialisée, évidemment, aussi, elle était matérialisée, mais c'était surtout un changement des têtes, la prison mentale, tu vois. Je veux dire, d'ouvrir notre tête aussi, ouvrir les portes et les fenêtres de notre tête et être capable de perdre la peur. De toute façon, on vit dans la culture de la peur. On a peur de tout. On a peur des sida, on a peur de la vache folle, on a peur de l'atome, on a peur de, on passe la vie à avoir peur. Et par exemple, ça, qu'on n'a pas parlé, mais ça, c'était une chose intéressante de tous ces mouvements, c'est-à-dire très localisé dans le monde psychiatrique, et dans la folie, l'enfermement, mais de perdre la peur. Tu vois, et ça, je pense que c'est très, très d'actualité aujourd'hui. Perdre la peur. On essaie de nous terroriser. On est terrorisé au long de la journée. Et je pense qu'il faut perdre la peur. Et là, je pense qu'on peut apprendre de l'antipsychiatrie. Non ? Voilà, tu penses pas ?
Oui.
Tu pensais à autre chose ?
Non, je pensais que je ne sais pas si quel est le programme. Si, est-ce que tu veux qu'on ouvre pour voir le livre ? Je me demande simplement si c'est un peu trop formel et si on pourrait un peu fractaliser la discussion.